schéma.
Alors, ce chiot dédié pour un réfois schéma de
Chantal.
Chantal.
Sarah.
Sarah.
Bat-Denise.
Esther. La question de Ariel.
J'aurais aimé savoir comment est-ce que dans la vie en général, ça veut dire avec nos parents, avec notre femme, ou même au sein d'une yeshiva ou dans notre travail, on pourrait être lévataire, ça veut dire s'annuler devant les autres, ça veut dire céder à certains d'autres. On dit entre autres qu'à la chaîne, on dit qu'il est ouvert à le péché, ça veut dire qu'il passe sur les fautes. Comment est-ce que nous, on peut faire pareil envers les autres? Ça veut dire que quand quelqu'un a fait quelque chose envers nous qui nous touche, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que passer?
Ok, on verra si ce sera un mini cours ou un long cours. On se lance et on verra où cela nous mène. D'abord, il faut comprendre ce que tu impliques dans ta question. C'est pas clair à tout le monde. En Occident, il y a le moi-je. Et si quelqu'un ne dit pas moi-je, il est complexé, il a un complexe d'infériorité. Il n'a pas confiance en lui parce qu'il n'est pas moi-je. Et la Torah, au contraire, condamne complètement le moi-je. Et elle vante le complexe d'infériorité. Alors, pas au point où tu arrives à un blocage où tu n'es pas capable d'agir, mais la Torah est maître, elle est vraie. Elle dit une chose très très simple. Il dit tu es créé. Donc tout ce que tu as, absolument tout, ne provient pas de toi. De quoi tu te vantes? Pour qui tu te prends? J'avais un temps, j'avais fait un cours qui s'appelait Geppetto et Pinocchio. Pinocchio, il se prend pour quelqu'un? Il n'a rien. Il n'a rien. Nous, on est des Pinocchio. Le problème, c'est qu'on se ment. Dieu a mis en nous un Yetzer Hara terrible. Source de tous les malheurs du monde, on peut dire. Vraiment. L'ego. Et le gosse n'est que ego. Que ego. Tu n'as pas donné son biberon à l'heure, il crie déjà comme un fou, il est jaloux, il est agressif, coléreux, tout ce que tu veux. Et on l'éduque de ne pas mettre son doigt dans le nez, de manger avec une fourchette et un couteau. Bon, de faire des études, d'arriver au bac au moins, le sacré kadosh, 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 bac. L'éducation. Mais on oublie, surtout en Occident, de travailler l'ego. Maintenant, dans la vie, forcément, on est confronté à des gens. Et quand deux égos se confrontent, ça fait boum. Boum, badaboum. Pourquoi, étant égo, je ne peux pas supporter qu'on n'aille pas comme je veux? Et chaque fois qu'on fait un petit guili-guili à mon ego, qu'on me dit que je ne suis pas le meilleur. Alors, je ne suis pas idiot, parce que je veux bien croire qu'il y a des gens mieux que moi sur Terre. Mais sentimentalement, il n'y en a pas. Je suis le meilleur. Si quelqu'un ose me dépasser, il est trop proche de moi, je deviens terriblement jaloux. Et dans ma tête, j'ai un jugement sur chacun. Lui est comme ci, lui est comme ça, lui est comme ça. Et moi, bon, j'ai quelques défauts, mais j'ai toutes sortes de circonstances atténuantes qui font que. En deux mots, l'ego est un grand menteur qui fait de nous ce que nous ne sommes pas. Dans cette mesure, il est impossible que quelqu'un qui a un grand ego se rapproche de la vérité, se rapproche de Dieu. Dieu, il est en horreur. La gava, c'est donc la fierté, l'ego. Et socialement, ce type-là, il est fichu. Particulièrement dans le couple. Parce qu'encore avec les amis, on peut toujours s'arranger, parce que la confrontation n'est pas trop aiguë. Mais dans le couple, vu qu'on est très proche et très sensible l'un à l'autre, donc les deux égos sont en confrontation extrêmement rapprochés, ça fait forcément des étincelles. Donc il y a une grande mitzvah, qui est la source de tout, d'ailleurs, c'est marqué dans le livre, que la source de toutes les bonnes midotes, de toutes les qualités d'âme, c'est l'humilité. Et la source de toutes les mauvaises midotes, c'est la fierté, donc l'ego. Donc ça, ce que tu as dit déjà, dans ce que tu as dit, c'est déjà impliqué. C'est clair, l'ego est mauvais, et l'humilité est bonne. Tout simplement, techniquement, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, il faut ce moyen de travailler les mauvaises tendances qu'on a, c'est avec notre âme sainte que Dieu nous a donnée. Il nous a donné d'un coup, d'une part, un ego animal terrible, terrible, terrible. Dans quelques mois, il y a Pourim. Haman est prêt. Haman est le second du roi. D'accord ? Le roi a ordonné que tout le monde se prosterne devant lui. Il sort dans la rue, tout le monde se prosterne. Arzadi, c'était le roi du monde. 127 provinces, mais au bas de couche, le roi du monde, en tout cas à l'époque connu, le roi du monde. Donc le monde entier se prosterne devant lui. Il y en a un qui ne se prosterne pas, Mordechai. Il rentre à la maison, furieux. Il dit, le roi m'a fait second, m'a invité même ce soir avec la reine, je suis en privé avec le roi et la reine, personne, aucun homme a une chance pareille. Je suis arrivé au top possible imaginable. Tout cela ne me sert à rien. C'est rien. Quand je vois Mordechai qui ne se présente pas devant moi. Il est psychiquement atteint, le type. D'accord ? Fierté. Mais chacun de nous, quelque part, si on le fait guili-guili à son ego, il sera le même. Et il décide, c'est le moyen, l'ego, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait moi et pas l'autre, donc on va l'éliminer. Et on va faire bien les choses, on élimine tout le peuple entier. Donc une Shoah. Haman, c'était le Hitler des temps antiques, d'accord ? Une Shoah est possible par un homme qui est doué d'ego, c'est tout, qui a un grand ego. Hitler, j'imagine, c'est pas tellement différent. Ça peut pas être différent. T'as des millions de gens qui te font « Hi Hitler » comme ça. Tu prends pour quelqu'un. Surtout que, dans leur conception, c'était l'ego, d'accord ? Am Israël dit tout le contraire. Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus grand de toute l'histoire, est vanté dans la Torah par beaucoup de choses. C'est un grand prophète, un grand sage, il fait la Torah, mais la Torah va dire son point principal va ish Moshe anav meod mikol adam asher pnei adama. L'homme Moïse est l'homme le plus humble qu'il y a parmi tous les êtres humains. Le plus humble. En ça, il est grand. Quand tu es humble, tu permets d'être en contact avec Dieu. Tu ne peux pas amener la Torah, être en contact avec la Shrine, la présence divine, s'il y a toi. Toi, ça s'arrête ou tu t'arrêtes. Et donc, tu empêches Dieu de venir. Au contraire, tu te fais tout plat, raplapla, rien du tout, tu ne joues rien. Donc, tu permets à Dieu de s'installer et de venir. On revient à ta question. Techniquement, comment faire? Alors, on a un nefesh, un ego mauvais. Très, très, très mauvais. Assassin, etc. Potentiel assassin. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu aimerais qu'il ne soit pas là. Quand on veut à quelqu'un, tu t'imagines maintenant en train de le boxer à mort. À mort dans le sens clair du terme. Mais Dieu nous donne aussi une neshama sainte, une neshama divine, grâce à laquelle on peut corriger les mauvais traits de caractère de notre animal. Comment fonctionne cette neshama ? En fonction de la raison pure. Travailler la raison. La raison nous a été donnée pour corriger les mauvaises qualités d'âme que nous avons. Et chaque fois que dans la vie, on est en situation mal par rapport à une situation, ou socialement avec des gens, ou avec nous-mêmes, d'accord ? Ça signifie que Dieu m'a mis maintenant, tout vient de Dieu, Dieu m'a mis maintenant en situation de douleur. La douleur, c'est fait pour dire qu'il y a une chose qui ne va pas bien. T'as mal quelque part, ça veut dire qu'il y a un problème physique qu'il faut soigner. La douleur, c'est un signe d'alarme extrêmement bénéfique. Quand ça ne va pas dans ta vie, on te dit « Attention, mon cher ami, là, t'as une mida, t'as un trait de caractère qui n'est pas réparé. Utilise maintenant ta raison pour faire un travail là-dessus, pour réparer cela. » Et vu que la raison pour laquelle Dieu t'a amené cette souffrance est que tu répares, quand tu répares, la souffrance, elle partira. C'est extraordinaire, les gens qui travaillent sur eux, sur un certain point, ils comprennent que ça vient de Dieu. Quand ils font un certain travail, il y a un problème qui vient. Ou un problème physique, un problème d'une personne qui nous casse les pieds, un voisin, n'importe quoi, d'accord ? Tu peux rien faire. Tu travailles maintenant le point dans lequel tu n'es pas OK, au niveau de tes midot, et bien miraculeusement, le problème disparaît. Dieu a vu, tu as fait ton job, ben OK, ben plus on de plus, on passe à autre chose. Alors autre chose, d'accord ? Un autre voisin. Mais bon, c'est pas. On avance.
La jalousie, c'est une faute en soi.
Oui.
Donc, quand je m'envoie, il va me les khatrila, il va me.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, Dieu m'ordonne beaucoup de choses à ne pas faire. Tu ne seras pas jaloux, tu ne seras pas envieux, tu ne seras pas agressif, tu ne seras pas, etc., etc. Maintenant. Moi, je veux faire ça. Il me met en situation maintenant où si je n'ai pas travaillé une certaine mida, la jalousie par exemple, là, elle va sortir. Ça veut dire, je te demande moi en tant que Dieu, ce point-là n'est pas réparé. Répare-le pour ton bien. Je te mets maintenant ce problème-là pour que tu te réveilles, que tu répares ce point. Tous les problèmes que nous avons dans la vie sont des envoyés de Dieu afin de réparer nos mauvais traits de caractère.
Je ne peux pas m'en vouloir si je suis jaloux ou si je suis...
Il te demande de réparer. Si tu ne répares pas, il va t'en vouloir, comme tu dis. Parce qu'il va t'en vouloir. En tout cas, tu n'as pas fait ton job. Tu es en situation non correcte.
C'est normal.
C'est normal que tu aies des épreuves dans la vie, que tu sois jaloux, mais ce n'est pas normal.
De l'aide continuelle.
Voilà. Tu as travaillé là-dessus et changé. C'est normal parce que tu viens d'une situation enfantine où tu es jaloux 100%. On demande que tu arrives à un 0%. Donc il y a un travail, tu comprends qu'il y a une progression.
Être envieux d'une certaine façon ou pas, d'un côté malsain, être envieux d'une personne en se disant « Ah, j'aimerais bien être comme lui », c'est pas avec le mal. Ça peut être aussi quelque chose de bénéfique qui peut
ouais. faire l'excellence. Oui, ça s'appelle « Kenat sofrim tarbe chokhma ». La jalousie des sages fera qu'il y aura plus de sagesse. Tu veux maintenant, tu n'es pas d'accord avec lui, tu veux prouver qu'il a tort, tu vas plus expliquer maintenant la Torah mieux pour expliquer que c'est toi qui as raison. Mais là aussi, il peut y avoir une bonne jalousie comme une mauvaise jalousie. On dit que le moyen de définir si c'est une bonne ou mauvaise, c'est que tu aimerais maintenant que ce type-là, ton concurrent quelque part, disparaisse, comme ça tu es seul sur place, et là c'est pas bien. Au contraire, s'il disparaît, il n'est plus là. Il y en a un dans la classe, voilà. Toi, tu es le numéro 2, tu es le numéro 1. D'accord. Et tant qu'il est numéro 1, ben, tu restes que numéro 2. Le jour où il change de classe, il est malade n'importe quoi, hop, tu deviens numéro 1. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça, c'est pas bien. Ce contraire, quand il part, te dit, avec qui maintenant je pourrais me mesurer? Ah, c'est fini. Rabbi Yochanan, son chavruta est décédé. Rosh Lakish. Et Rabbi Yochanan, il a eu 10 enfants qui sont décédés. Et il a même pris un petit os de son dernier enfant, avec qui il allait voir tous les gens qui étaient peinés, qui avaient perdu un proche. Il dit, regarde, ça c'est l'os de mon 10e fils. Et tu vois comme je suis heureux. Je reste de bonne humeur. Il ne faut pas déprimer. Rosh Lakish est décédé. Déprime. On a cherché une chavruta, on l'a amené, Rabbi Lazar ben Pedat. Rabbi Zerben Pedat, ils étudient ensemble, Rabbi Yochanan disait quelque chose, il dit « Ouais, t'as raison, j'ai une preuve, tac, tac, tac. » Sur chaque chose que Rabbi Yochanan disait, Rabbi Yochanan amenait 24 preuves. Alors, Rabbi Yochanan a dit « Ah, Bar Lakisha, fils de Lakish, c'était son chavruta, mon Resh Lakish, où es-tu ?» Comme moi, je disais une chose, Resh Lakish m'amenait 24 preuves contre. Et moi, je vais me battre, essayer de prouver que oui, j'ai raison. Alors, on grandissait. Maintenant, tu mets 20 preuves que j'ai raison, ok, je sais bien que j'ai raison. J'ai dit, ben, je ne veux pas que tu me dises que j'ai raison, je veux dire que j'ai tort, et comme ça, on pourra grandir. Une jalousie de ce type-là, où il regrette celui qui n'est pas d'accord avec lui, ça, c'est positif. On revient maintenant à la technique. Alors, l'âme est douée de raison, et elle va comprendre que l'épreuve est envoyée par Dieu, et qu'on va demander maintenant un travail. Comment travailler? Je comprends, je ne vais pas être jaloux, je suis jaloux. Qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas lui en voir, je suis énervé, je ne dois pas m'énerver. Le seul moyen, Dieu nous a dit, Barati Yetzara, j'ai créé Sarah, Barati Lo Torah Tvalin, j'ai aussi créé le médicament, il s'appelle Torah. Mais quelle Torah? Bah, tout simplement aller étudier Baba Kama, les taureaux qui s'encornent, comme ça je me calme, quand je vois un taureau qui m'encorne, je n'ai plus envie de l'encorner. Non, ça ne marche pas comme ça. La Torah du Moussar. C'est quoi la Torah du Moussar? Des textes écrits par des gens très très saints qui vont me rappeler, d'après la raison, où est la vérité. Ce que je voudrais t'expliquer maintenant, pour qui tu te prends? Qui es-tu? Des exemples de tzadikim, comment ils ont réagi face à une situation où ils auraient pu être en colère, où ils auraient pu exiger leur honneur, et ils sont écrasés, raplapla, carpette. Quand je vais faire un travail quotidien là-dessus, au bout d'un moment, ma conscience du problème que j'ai, de mon ego, devient très claire à mes yeux, je suis très éveillé. Et quand tout d'un coup, tac, il y a une épreuve qui arrive, automatiquement, je commence à me dire, ok, mon cher ami, ah tiens, il y a l'enfant qui se réveille maintenant, l'ego, tatatata, mais je sais que c'est un crétin, il dit n'importe quoi, c'est un petit enfant qui réagit que comme un bébé, c'est pas juste, et moi je veux être juste. Donc je vais travailler comme ça, je vais me raisonner, et la raison, et ça c'est un principe qu'il faut comprendre, la raison est plus forte que l'ego animal. L'ego animal est très très fort. Et si la raison n'agit pas, eh ben c'est le mettre à bord. Mais si on fait agir la raison, et on va commencer à travailler la raison, et travailler, 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 au bout d'un moment, la raison, elle peut corriger complètement l'ego, à un point tel que l'ego devient, va exactement dans le sens de ce que nous dit la raison. On peut devenir complètement humble. Bon. Travailler l'humilité directement, c'est un travail énorme. Mais ok, on ne veut pas un 100%. Qu'on ait à la place d'un 100% d'orgueil, qu'on ait 70%, c'est déjà une victoire énorme. Énorme, énorme, énorme. Du Moussard. Ça manque en français. Il y a beaucoup de livres en hébreu. En ce qui concerne il y a une série, que quelqu'un va faire de grand mitzvah, j'ai fait un appel ici sur le web, d'accord. Il y a en hébreu une série de livres qui s'appelle du Rav Avraham Tobolsky, qui sont des anthologies. Donc, il a pris des extraits d'un peu tout. Sur des midotes. C'est la série Tikkun HaMidot de réparation des midotes. Tu as sur un qui est fantastique, qui est dans mon bureau, que j'essaie de lire beaucoup parce que j'ai besoin de cela aussi, comme tout le monde. La Navi Mitenchen. Il donnera du charme au saint verset, au humble, sur l'humilité. Un gros bouquin comme ça, rien que là-dessus, avec tous les écrits de Chazal là-dessus, après les exemples qu'il donne de Tzadikim, après des trucs, fantastique. D'accord ? Tu lis tous les jours un peu là-dedans. Au bout d'un moment, ben ça travaille. Que nous mettons une occasion maintenant de dire moi je, au lieu de dire quatre fois, tu diras deux fois. Bon, c'est déjà mieux. Tu as sur le vol, tu as sur parler vrai, tu as sur la colère. Le seul qui est traduit en français, c'est sur la colère. Haute ou bien chasse, je ne sais plus si c'est haute ou chasse, la colère de ton cœur. Du Rav Tobolsky. D'accord ? Ça, c'était traduit en français. C'est une grande mitzvah de traduire le reste aussi en français. Sinon, apprendre l'hébreu, c'est une grande mitzvah, apprendre l'hébreu et lire. Mais sans Moussard. Alors, il y a peut-être quelques extraits par-ci, par-là de Moussard en français, mais c'est très peu. Sans ça, no chance. En bon français, aucune chance. Donc, il était avant. Oui.
Donc, on parlait tout à l'heure de la fierté. Maintenant, la colère.
Colère, c'est un résultat de la fierté. Exact. C'est quand on a fait guili-guili, on a un peu excité l'ego, alors sa réaction est colère. Quand ça ne va pas comme mon ego veut, je me mets en colère.
Oui, mais on ne peut pas se rabaisser tout le temps. Il y a des fois où il faut se faire entendre.
Oui.
Alors comment faire
Mais pas quand on est en colère. Quand on est en colère, on ne sait jamais entendre. J'ai expliqué ce principe 40 000 fois. Quelqu'un, on va dire mon conjoint, c'est dans la couple où c'est comme je dis, la confrontation est la plus exacerbée. Ça fait la millième fois que je dis à ma femme de ne pas faire ça, elle le refait. Elle sait que j'accepte tout, mais surtout pas ça. Alors, si je crie, c'est sûr que ça va faire des dégâts. Chérie, s'il te plaît, je t'avais déjà demandé d'essayer de faire un effort, de plus faire ça, s'il te plaît. Ça s'appelle, je reste calme, je bouillonne intérieurement. Ça s'appelle une remarque qui sort de l'estomac. C'est estomacal. C'est vrai que, raisonnablement, peut-être j'ai raison. Mais qui parle maintenant ? C'est pas la raison. C'est pas la raison. C'est l'estomac. Prenons l'exemple, je dis maintenant, attends 2-3 jours pour parler, t'arrives pas à te retenir. Et c'est bien d'attendre 2-3 jours. Je dis pas s'écraser toujours. Je dis s'écraser toujours. Sur place, attends 2-3 jours et là en parler quand t'es calme. T'arrives pas. Le rabbi a dit d'attendre, j'arrive pas. Donc ça, c'est pas du tout raisonné. C'est de la réaction animale. Donc ta femme, elle a aussi un animal en elle. Elle a aussi un guili-guili, un égo avec qui sont fait guili-guili, il va pas. Alors, quand c'est l'animal qui réagit chez toi, l'animal fait « Coucou, je suis là », directement, ça réveille son animal aussi. Aïe, 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 la réaction. Ça n'arrive même pas à crier comme ça. Non, pas comme ça. D'accord. Tu me fais n'importe quoi, un truc, boum, d'accord. Pourquoi ? Normal. L'animal a parlé. En double, tu l'envoies tout le temps, un zbeng, d'accord. Elle t'envoie un zbeng en retour. Et là, on commence le baseball et la pétanque et les missiles nucléaires. Donc il faut, oui, s'écraser. Non, je finis juste le principe qu'ils comprennent. On s'écrase complètement jusqu'à ce que l'animal se taise. Et quand l'animal s'est calmé, ça prend des fois beaucoup de temps. Il n'a même plus envie d'en parler parce que ce n'est plus une réaction. Donc on n'a plus envie. Il n'a plus envie. Parce que l'animal, il fonctionne au moins, il va ce qu'il a plus envie. Mais la raison, tu dis maintenant, c'est maintenant qu'il faut en parler. Je n'ai même plus envie d'en parler. Là, la raison, tu dis, vas-y, parle-en. T'en parles tranquillement, gentiment. Tu dis, écoute, je comprends que c'est dur pour toi. Pour moi, c'est dur. Viens, trouve une solution. Tu parles comme ça. C'est vrai, elle peut entendre. Elle n'est pas, à moins qu'elle soit vraiment tordue complètement. Mais là, tu dis, ouais, on peut, gentiment, comme ça, elle entend. On essaie d'en parler un peu tranquillement. Là, on va arriver à un résultat. Donc, tu n'as pas laissé passer. Tu as écrasé l'ego, tu as attendu qu'il s'éteigne, et là, tu parles intelligemment. Ça, c'est raisonnable, oui.
Donc, au final, est-ce que faire des torahot, donc des remontrances, c'est un manque d'annulation?
Ça dépend si c'est en réaction de l'animal, c'est une réaction. Tu as vu une chose maintenant, ça t'énerve, et tu vas, d'accord, et là, le type, il ne supporte pas. Ou bien, tu restes totalement calme, et tu fais des shem shamayim. Vraiment, shem shamayim, ça veut dire que ce type-là, il a fait ça, dans, par exemple, on va dire un exemple, là, dans la chambre, il a... Hein, il claque la porte chaque fois qu'il rentre à la maison. Et chaque fois qu'il rentre, à 1h du matin, c'est bang, 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 bang. Toi, tu es dans ton lit, ça fait la 20 millième fois que tu lui as dit, chaque fois il te réveille, tu n'as plus à t'endormir, ton sommeil est fichu, tu t'énerves parce que tu t'énerves. Tu as besoin de rester calme, tu t'énerves. Bon, en deux mots, un cercle terrible. Quand tu es énervé, et tu lui dis gentiment, ça l'énerve aussi. Tu demandes ce que je dois faire une remontrance. Oui, c'est l'effet complètement calme, les shem shamayim, pour son bien à lui, pour le bien. Quel est le bon moyen de vérifier cela? Si tu vas entendre maintenant, il y a 10 chambres de la tienne, tu y a un type là-bas, lui aussi claque les portes. Tu vas aller le voir gentiment. Il ne t'a pas touché, il ne t'a rien fait, c'est même pas ta chambre. D'accord, excuse-moi, c'est même pas ta chambre. Tu sais, je suis au courant des fois, j'ai vu que tu parles, tu claques la porte. Je sais pas, moi, quand on fait ça dans ma chambre, ça m'embête. Vérifie avec les gens, peut-être aussi ça les dérange. Des fois, ça peut remettre les gens complètement hors d'eux. Tu l'as fait gentil avec un sourire, sympa, avec une main dans le dos. C'est pas méchant, tu comprends. Si tu vas le faire à lui, donc ça veut dire que vraiment ça te dérange, tu peux faire aussi à la personne de ta chambre dans le même esprit exactement. Pas que tu es plus impliqué et touché. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Sauf que le type, pour accepter la remontrance, il faut être super doux, parce que lui, tu touches son ego. Quand tu fais une remontrance à quelqu'un, tu lui dis, t'es un nul. Il n'aime pas entendre ça. Personne n'aime entendre qu'il est un nul. Il faut être très humble, on n'est pas humble. On n'est pas humble. On n'est pas humble. Al torach, ar torach letz panis naeka. Ne fais pas de remontrance à un railleur, parce qu'il va te haïr. C'est quoi un railleur? C'est un petit qui, tellement son ego est développé, on ne peut pas lui dire une chose intelligente. Je parle maintenant sérieusement. La raillerie, la rigolade, à toi de toute façon, d'accord. Le type, il ne te répond pas sur ce que tu as parlé. Il t'envoie balader avec un truc. Ou il rigole, ah, tu me fais rigoler, d'accord. Ou bien, toi, de toute façon, de quoi tu te mêles. Un railleur, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. C'est un moyen de défense. Le verset continue, il dit, « Ocheach chacham ve'yaveka. Fais une remontrance à un sage, il va t'aimer. » Parce qu'un sage, il aime entendre ce qui ne va pas chez lui pour pouvoir s'améliorer. Je te remercie, je n'avais pas remarqué. Je t'ai fait tout. Ah, je regrette vraiment. Chaque fois que je fais ça, je te demande de me le redire parce que des fois, je ne me rends pas compte et je veux changer. C'est beau. Il veut vraiment changer. Quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer, il aime les remontrances. Mais il faut que le type qui lui fait sa remontrance ne joue quand même pas trop sur son ego. Parce que même s'il est sage, il a quand même un ego. Donc il faut être gentil, il faut être sympathique. Il dit écoute, je sais que c'est pas grave, mais quand même, ça m'arrangerait, ça bien. Là, là. Un truc sympa. Voilà. Dis sympathiquement, gentiment. Pas culpabilisant, pour vraiment que le type s'améliore, à deux, pas en public, c'est le mitzvah. Ok? Donc, travaillez là-dessus. Travaillez. Et comme je dis souvent, c'est maintenant qu'il faut travailler. Parce que, actuellement, c'est encore à bal à blanc. Quand on se marie, c'est des bals véritables.
Et ça, et par rapport au fait qu'on est à l'échelon, par rapport à notre âge?
Les deux. À votre âge, avant le mariage, spécialement dans les yeshivas, parce que les yeshivas, vu qu'on vit en communauté, donc c'est beaucoup plus, c'est une bonne école. Il faut en profiter pour se mettre avec les gens les plus durs à supporter. Et s'écraser. Beaucoup moins. T'es pas con. Quelqu'un, il est dans sa chambre seul.
Non mais on voit des gens dehors.
Ouais, ok. Mais bon, je dis pas qu'il n'y a pas de confrontation. Ouais, mais moins. Ici, t'es dans la même salle de bain, la même chambre. D'accord, c'est dur, pas facile.
Et quelqu'un qui est d'une famille nombreuse, il n'a pas besoin forcément de venir en yeshiva pour.
Peut-être. Moi, j'ai lu ce matin dans mon petit bouquin sur l'humilité, Abraham ben Zakkai.
Abraham
ben
Zakkai.
Hein? La Navi Mitenchen, la série Tikkun Amido du Rav Avraham Tobolsky, je recommande beaucoup. La Navi Mitenchen. Là-bas, il parle de Abraham ben Zakkai, qui était le plus grand rabbin de l'époque. Il était une page entière dans Souka, page 28, de toutes ses qualités. Il connaissait tous les débats de la Bayerava, tous les Massé Merkava, les trucs des anges, la Kabbalah, la discussion des palmiers, l'exécution des bougies, tout. Et il dit, je n'ai manqué de ce que j'ai enseigné, de ce que j'ai appris de mes maîtres, que une goutte dans tout l'océan. Donc il était une sagesse extraordinaire. Et bien, la Gemara dit là-bas que jamais, quelqu'un lui a dit bonjour avant que lui ait dit bonjour. Raplapla. Tu fais attention dans la rue. Quelqu'un, des fois, quelqu'un te dit bonjour. Tu ne fais même pas attention, tu ne réponds même pas. La Gemara, elle dit, c'est du vol. Il y a un verset, Glat ani bevatechem. Le vol du pauvre est dans votre maison. Qu'est-ce qu'on peut voler à un pauvre, il n'a plus rien. On vole la réponse à son bonjour. Si il t'a dit bonjour, tu n'as pas répondu. C'est du vol. Mais être le premier à dire bonjour, tu veux dire, t'es rien. T'es super à l'écoute, attention, les autres. Une des questions qui arrive, une des premières questions qu'on a voilà là-bas, Aïm emlachta et travecha alech. Est-ce que tu as mis ton prochain en tant que roi devant toi? Roi! Je suis un serviteur des autres. C'est pour moi des rois. Une des premières questions. Tu comprends le niveau qu'on nous demande, mais il faut commencer à travailler là-dessus. Il faut commencer à travailler.
Ils sont
indulgents pour ceux qui travaillent. Parce que le type te dit bonjour. Tu réponds même pas. Tu ne prends pas. Réponds.
Si on repense le bonjour.
Demain, tu auras dit bonjour.
Il s'allume la cinare. Il peut dire, je lui dis bonjour, il m'a pas répondu, papa m'a répondu, il se prend pour qui, il se prend pour
voilà, voilà, tout voilà. Ça. Donc il y a un travail. Et je me souviens, je me souviens, il y avait un rave, c'est pas le rave. Shimon ben Mansour ben Shimon. C'était un des anciens rabbins de Porat Yosef. Il allait encore avec la toque comme ça et la djellabiée. D'accord. Dans les anciennes questions, dans la salle, il y a une photo, on le voit encore jeune comme ça. Il était dans mon quartier un jour, près dans la même synagogue. Et j'étais derrière lui. Et je lui ai dit, Kodara, je l'ai appelé comme ça. Il s'est retourné comme ça, du genre, j'étais un jeune blanc bec de 22-23 ans, ce monsieur, il a 70 ans avec une grande barbe. Comme s'il se tourne comme ça, du genre, rien. Quelqu'un m'appelle, une minute, d'accord. D'abord, tu viens devant moi, parce que moi je dois me tourner. On se prend pour quelqu'un. Tu vois, et c'est un chacham, un grand d'Israël. La hanava, l'humilité. On ne sait pas ce que c'est, on a oublié. Bon, il faut beaucoup travailler là-dessus.
Est-ce que c'est d'Afka à nos âges de travailler l'humilité ou au contraire, il faut travailler un peu la gaba à nos âges on se prend vraiment pour rien parce qu'on n'a pas confiance en nous. Alors autant, un peu travailler la. Justement, avoir un peu de gaba et puis attendre un petit peu avant de travailler là-bas.
Je crois qu'il faut pas. Je crois que c'est. Il y en a qui disent qu'il faut le grand travail de la dernière fois. Il y en a qui disent qu'il faut faire ça un peu plus tard dans la vie. Mais comment tu vas te marier? Comment tu vas te marier? Il faut qu'il y ait du shalom à la maison. Aujourd'hui, c'est des hécatombes ce qui se passe dans les maisons. Parce que les gens ne sont pas construits au niveau minimal de savoir-vivre.
Donc moi,
donc, ouais, moi, je pense qu'il ne faut pas mêler les deux. Je pense qu'il y a deux choses. Quand je dis au début, un manque de confiance en soi, si on reste en situation de manque de confiance en soi sans rien, alors vraiment, ça ne va pas aller. Moshe Rabbeinu bégayait, était super humble. Mais d'un côté, il savait que Dieu était avec lui. Donc la grandeur, c'est quoi? C'est savoir que moi, en tant que moi, je ne veux rien. Tout ce que j'ai, Dieu m'a donné. Mais Dieu m'a donné. Donc je ne suis pas un nul. Le moi qui va dire « je suis parce que j'ai », c'est moi qui suis intelligent, c'est moi qui suis beau, c'est moi qui suis grand, c'est moi qui suis quelqu'un. Non, ça c'est faux, c'est pas moi. Dieu m'a donné. Mais une fois que Dieu m'a donné, j'ai. Moshe Rabbeinu sait bien que c'est lui qui parle à Shrina quand il veut. Il sait bien que c'est lui qui a amené la Torah dans le monde. C'est pas un amnésique qui dit « je suis un nul ».
Comme vous avez dit, il a donné le fait de bégayer, donc il a acquis pour devenir humble dès le départ.
C'est pas parce qu'il bégayait qu'il était humble, c'est pas pour ça.
Peut-être
ça aide, ok. Ok. C'est un autre sujet. En tout cas, il s'est travaillé. C'est clair. C'est beaucoup. 80 ans, cela a pris pour que Dieu lui parle. Hein? La première fois qu'il lui parle, il a 80 ans. Moshe Rabbeinu. Ouais. 80 ans, Buisson. Il a fait quoi l'entendement? Il a bossé pendant 80 ans, bien sûr. C'est pas comme ça qu'on devient Moshe Rabbeinu, tu crois, aîné, comme ça, bon grand.
On voit dans le film, la pleine 40 ans.
Ouais, le film, je connais pas le film, au prochain. Alors, il faut bien comprendre ce principe. Moi, j'ai pas à me taper dans le dos t'es quelqu'un pour les qualités que j'ai. Parce que j'ai rien fait pour. C'est tout Dieu qui m'a donné. Mais je suis pas amnésique de savoir que j'ai ces qualités. Et que Dieu m'aime. Et Dieu me donne. Et Dieu a confiance en moi. Quand je sais que Dieu a confiance en moi, je suis là maintenant pour remplir une mission en son nom. Une grande mission, en tant que juste, une mission énorme. Alors, je peux rester humble, mais je n'ai pas peur d'agir. Je ne suis pas un type qui est congestionné. Tu comprends la nuance? Par contre, quand quelqu'un viendra et va me marcher sur la cloque, je vais accepter, parce que qu'est-ce que je suis, moi? Je ne suis rien. Tout ce que j'ai, maintenant, c'est pour la mission de Dieu. Il ne faut pas mêler les deux.
C'est connaître sa place.
Savoir que moi, en tant que moi, j'ai rien, mais j'ai reçu des cadeaux que Dieu m'a donnés. Et Dieu me donne ces cadeaux parce qu'il a confiance en moi pour faire une grande mission. Et si je sais que Dieu a confiance en moi, j'ai confiance en moi. Parce que je suis envoyé par, je suis aidé par Dieu. Alors je n'aime pas dire j'ai confiance en moi, parce que moi je suis rien. J'ai confiance en Dieu. Ça c'est juste. J'ai confiance en Dieu. Donc je ne suis pas complexé. Mais moi, je ne suis rien. Et si quelqu'un maintenant va contre mon désir, il est envoyé de Dieu. Qu'est-ce que je commence à me battre? Moi tout ce que je fais, c'est ce qu'on me demande. Si on ne faut pas, on va aller autrement. Bah, Adonai, l'homme va, mais...